Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable.
Malraux le disait déjà, l'Europe, c'est des boutiques. La consommation est devenue la religion du monde. Nous ne parvenons plus à nous sentir quelqu'un si nous n'exhibons pas le dernier iPhone. Vers une consommation heureuse. Telle est la très saine lecture et le dernier ouvrage d'Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet Utopie, cabinet pionnier dans le conseil en développement durable aux entreprises.
Le principal piège, c'est qu'il y a une forme d'addiction individuelle et collective à la consommation et même à la surconsommation. C'est un peu ce que j'explique dans le bouquin, parce qu'on pense individuellement que la consommation va nous rendre heureux, alors que les études des psychologues montrent que c'est pas le cas. Ce qu'elles montrent au contraire, ces études notamment d'un psychologue américain qui s'appelle Tim Kasser, c'est que plus un individu est orienté vers la possession et l'accumulation de biens matériels, moins il est heureux. Ça, c'est la première chose. Et collectivement, c'est pareil. Les politiques notamment font tout pour relancer la croissance, et notamment la croissance de la consommation, en pensant que c'est ça qui va faire notre bonheur collectif, alors que là encore, les études, cette fois plutôt des économistes, montrent que c'est pas le cas, et que, en gros, quand on regarde le niveau de bonheur moyen dans un pays, on s'aperçoit qu'il croît avec les revenus et la consommation, jusqu'à un certain point, en gros, tant que les besoins basiques sont pas satisfaits, et que, au-delà de ça, les revenus continuent d'augmenter, la consommation continue d'augmenter, mais le bonheur se casse la figure. Alors, les économistes disent parce que on rentre à ce moment-là dans une phase de ce qu'ils appellent la consommation statutaire ou ostentatoire, autrement dit, où la consommation de biens matériels sert plus à couvrir des besoins basiques, ce qui génère de la satisfaction, mais à se positionner dans l'échelle sociale, ce qui génère de la frustration, parce que dans l'échelle sociale, vous avez toujours quelqu'un qui a plus que vous. Et c'est un peu la fameuse phrase de Séguéla, là, si à 50 ans t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. En gros, il y a toujours cette espèce de pression pour dire on n'a pas assez réussi si on peut pas se payer ceci ou avoir cela. Et passer de l'iPhone 5 à l'iPhone 6, etc., etc. Et ça, c'est une course sans fin qui génère que de la frustration. Et donc, le point de départ, en tout cas, du livre, c'est qu'il y a cette addiction et qu'il ne suffit pas pour sortir d'une addiction, la bonne volonté suffit pas. Il faut de l'accompagnement, et notamment, je pense que les consommateurs, les citoyens que nous sommes, ont la volonté de sortir de ça, et pour une partie, ils en sortent déjà, notamment du fait, un peu incité, poussé là-dedans par la crise, il faut bien le dire, parce que comme le pouvoir d'achat s'est réduit, ça a aussi stimulé l'essor de pratiques, enfin d'une désaddiction, le début d'une désaddiction à la surconsommation, avec notamment l'essor des pratiques de consommation collaborative, le don, le troc, l'achat d'occasion, etc. Et le fait juste d'acheter moins et moins de superflu. Donc il y a à la fois cette tendance-là et cette volonté du grand public ou des citoyens, mais en même temps, on est, a fortiori, on sait, à l'approche de Noël, mais harcelé par des messages incitant à consommer. Et du coup, c'est vrai que le postulat, même si les thèmes de, d'ailleurs, des addictions et détox sont à la mode dans plein de domaines différents, ça ne peut se passer que s'il y a un accompagnement des individus, parce que c'est un sujet collectif, parce que la consommation est un fait collectif, parce que c'est un moyen de participation à la société. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement essentiellement des politiques ou des autorités publiques au sens large, ça comprend les collectivités par exemple, donc avec des projets politiques où la consommation joue un rôle moins important et où le bonheur joue un rôle plus important peut-être. Et puis un accompagnement aussi des entreprises à travers les offres qui sont proposées aux consommateurs.
Pourquoi la consommation pour la consommation est-elle devenue une fin en soi ? Pourquoi a-t-elle pris la place d'autres valeurs ? Elisabeth Laville, auteure de « Vers une consommation heureuse ».
Je pense que le bas blesse parce qu'il y a de fait là, derrière tout ça, il y a des contradiction. Et puis, je crois que c'est Christophe André, le psychiatre, qui dit que la consommation, c'est une solution de facilité. Et il emploie ça, notamment il compare la consommation à cette histoire, vous savez, où un monsieur cherche ses clés sous le lampadaire, juste parce qu'il y a de la lumière là. En fait, c'est pas du tout là qu'il les a perdues, mais c'est là qu'il les cherche. Et la consommation, c'est pareil. Elle est là, accessible maintenant en plus avec Internet, etc., 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si vous êtes cloîtré chez vous. Et c'est une solution de facilité pour peut-être moins regarder des questions plus existentielles, ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, etc. Et donc, l'anti-solution de facilité, ça serait de réfléchir avant d'acheter aux conséquences de nos actes sur nos actes d'achat et nos choix, évidemment sur la planète, sur les autres, etc., mais aussi sur nous-mêmes, puisque, comme le rappelle assez utilement, je trouve, les gens qui travaillent sur tout ce qui est simplicité volontaire aux États-Unis, l'argent qu'on dépense, c'est notre énergie vitale qu'on dépense aussi, puisque ça correspond à du travail, notre temps, le temps qu'on a passé à travailler. Donc ça se fait pas de manière inconsidérée. Or, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de le faire de manière quasi réflexe. Et de manière intéressante, Tim Kasser, le psychologue que je citais tout à l'heure, quand il essaie de réfléchir à ce qu'on peut avoir comme stratégie pour se mettre soi-même à se désintoxiquer, si je puis dire, ou à sortir de cette addiction à la consommation, dit mais il faut probablement, alors lui dit carrément se désabonner d'un certain nombre de magazines, médias, etc., qui sont pleins de pubs qui nous incitent à la surconsommation. Donc il dit il faut arrêter de regarder la télévision, faire pareil sur nos enfants par exemple et les inciter à faire d'autres choses que regarder la télévision et cultiver d'autres pans finalement de notre vie qu'on laisse peut-être, qui sont peut-être un peu plus difficiles encore une fois à cultiver, donc la vie familiale, la vie associative, la vie amicale, la vie sportive. C'est pas toujours déconnecté complètement de la consommation. Hein. Pour faire du sport, il faut acheter des chaussures, une raquette, des balles, je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça correspond à d'autres pans de l'art de vivre que celui de la consommation.
La consommation est-elle un tic obsessionnel convulsif qui remplace tout ? Et non, cela ne rend pas heureux. Vers une consommation heureuse, c'est aux éditions Alary. Vous le trouvez notamment sur Amazon. Une lecture qui vous rendra lucide, la première étape vers la détox.